Et Nathalie Barrette, chef recherchiste qui est ma complice cette année avec moi en studio. Bonjour Nathalie.
Allô Chantal, comment tu vas?
Ah, très très bien, et ça termine bien la semaine. Tu vas nous parler, toi, de la représentation à l'écran du handicap et en même temps, tu vas nous glisser un mot sur le film Un petit truc en plus.
Ouais, que je suis allée voir cette semaine et j'ai adoré ça.
Bon, ben moi aussi j'ai adoré.
Oui.
Je l'ai vu la semaine dernière. Et tu connais bien notre invité d'aujourd'hui. On va l'accueillir à l'instant. L'animateur, auteur, conférencier, agent d'artiste, mais aussi à une certaine époque. Agent d'artiste à une certaine époque, mais qui le deviendra aussi, qui l'est devenu avec un autre poulain, comme on peut dire, oui. Alors, bonjour, José Lito Michaud.
Bonjour, Chantal.
Alors,
bonjour,
José Lito, oui, c'est ça, on parle de Monsieur Langevin, Luc Langevin, que tu vas représenter.
Ah, j'ai commencé.
C'est ça, c'est déjà intensément effectif.
Ça a pris 15 ans avant que je dise oui de nouveau à ce métier-là. Tu sais, il ne faut jamais dire jamais. Et dans ce cas-là, j'ai dit oui parce que c'est un ami de 10 ans. Puis à un moment donné, il m'a dit « j'ai besoin de toi ». Puis j'ai fait « non ». Ça a pris au moins 2 mois, mais je l'ai aidé quand même. Puis à un moment donné, j'ai fait « ok, pourquoi je ne le ferais pas ?» Fait que j'ai essayé d'organiser mon horaire, parce que je travaille beaucoup, pour essayer d'être là. Puis je suis très, très content de ma décision. Très, très content.
Ouais, c'est ça. En fait, on le décrit comme… c'est un illusionniste.
Oui.
Alors, c'est vraiment quelqu'un qui a déjà commencé une carrière en France, mais vraiment, là, il s'agit de mousser davantage. Écoute, c'est quelqu'un qui pourrait parcourir le monde.
Enfin, parcourir le monde. Ouais, c'est la raison pour laquelle
moi,
j'ai
voulu... Oui, t'as envie de voyager.
J'ai envie de voyager. À un moment donné, j'étais avec sa blonde et lui, puis il me dit « Pourquoi t'as décidé de revenir au management? » Je dis « Égoïstement, parce que j'ai le goût de revivre en France.
» C'est très drôle. Ben pourquoi pas? Alors, évidemment, plein de projets, de toute façon. Tu as décidé d'arrêter la télé comme animateur.
Oui.
Mais
oui.
Attention, tu as plein de projets oui. qui sont en route, plein d'idées. Et,
mais c'est tout un deuil à faire quand même.
Oui, mais
de
bien
se
sûr.
De dire
mais...
que je ne ferais plus ça, là, c'est comme ça m'a saisi hier, peut-être ou avant-hier, quand quelqu'un m'a dit « on ne verra plus du tout ». J'ai dit « non, plus du tout ». J'ai fait « ok, là, c'est vrai que c'est définitif ».
Mais on entend ta voix.
Oui, bien sûr. Non,
dans les nouveaux balados là, qui
oui.
vont être en ondes très bientôt sur différentes plateformes. Alors, parle-nous-en de ces balados.
Bien, je vais commencer, je ne voudrais pas être indiscret parce qu'il y a longtemps que je voulais faire un balado, mais pas le faire comme les autres. J'essaie de trouver mon ton, ma manière. Je fais ça souvent. On va parler de singularité tantôt.
Oui, c'est ça, c'est le sujet.
Mais c'est le sujet du jour, je pense.
Oui.
Bien, moi, je pense que j'aime beaucoup, je donne beaucoup de conférences. Aux conférences, à chacune des conférences, je dis toujours, trouvez votre singularité. Trouvez là où vous êtes meilleur que les autres. Trouvez là où vous pouvez faire une grande différence. Et la différence peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Et moi, je regardais les balados, entre autres celui de Marie-Claude Barrette, qui le fait magnifiquement bien, de bien d'autres, là, parce que ça fait longtemps que ça existe. Je me disais, j'ai pas envie d'être autour d'une table en train de poser des questions. Je l'ai fait, moi, 5800 fois. Fait que j'avais plus envie de ça. Puis je me suis dit, j'aimerais mieux plutôt entrer dans le champ d'activité des gens, dans un lieu inédit. Puis il y allait avec une question très précise pour moi. Je voudrais pas être indiscret, ça ouvre une porte à... Mais je vais l'être.
À l'indiscrétion. Je vais l'être
à l'indiscrétion, effectivement. Mais en même temps, tout en étant quand même pudique, c'est-à-dire on pose les questions qui sont nécessaires. C'est les réponses, comme disait Oscar Wilde, qui parfois le sont davantage, indiscrètes. Fait que c'est ça. Dans ce sens-là, non, je suis très content de faire ça. Ça va arriver au mois de juillet. Là, la bande-annonce tourne actuellement, qui m'oblige à aller travailler bientôt. Mais on ne me voit pas.
Non,
on
mais
m'entend.
On entend la voix
parce que je
quand
tiens
même.
La
Alors,
caméra.
Tu seras bien présent parce que, en fait, Nathalie, on se souvient tous d'On prend toujours un train pour la vie.
Ben, oui.
Cette série-là, Passage obligé, le livre aussi, hein,
que j'ai à la maison.
Du deuil.
Oui.
bien sûr, Nathalie qui a vécu un deuil quand même important dans sa vie. Alors, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est vraiment, ça nous a beaucoup, beaucoup marqué. Mais là, vraiment, tu vas continuer un peu dans le même sens, c'est-à-dire que, là, évidemment, on ne fera pas ta bio de façon exhaustive, mais tu veux vraiment nous amener dans ce qui, toi, t'as toujours animé le plus, c'est vraiment, c'est ça, aller chercher à la fois la part de lumière, mais la part d'ombre, les failles, enfin, rendre humanisé, au fond, tes invités.
Totalement.
C'est ce que tu as toujours voulu faire. Donc, aller chercher la singularité chez eux.
C'est drôle parce que quand j'ai parlé avec Luc Langevin au départ, bon, c'est un ami de 10 ans, mais quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est tes faiblesses. Puis il m'a dit, je comprends pas. Parce que ça, pour moi, c'est avec ça qu'on va travailler davantage. Et j'essaie... Puis tu sais, il y a deux types de management. Il y a le management qui dit, c'est le plus bon, c'est le meilleur, c'est le plus grand. Moi, je suis pas comme ça. Moi, c'est toujours, les autres ont leur place. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour apporter ta place et ta distinction? Donc, jamais je... Tu sais, il y a beaucoup de managers dans la vie qui vont descendre les autres artistes du même acabit. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la force de Choquette, quelle est la force de quelqu'un d'autre et quelle est ta force à toi maintenant. Encore une fois, la singularité. Et moi, j'aime beaucoup les failles des gens. Parce que dans les failles des gens, il y a un peu ce que disait Cohen, Leonard Cohen quand il disait c'est à travers les failles que la lumière jaillit. Ben moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. J'ai peut-être pas mieux cité, mais en tout cas, c'est ça l'essence du message. Et c'est ça que moi, j'ai envie de faire quand je fais du management. C'est ça que j'ai envie de faire quand j'écris des livres. J'écris mon cinquième livre actuellement, où je reviens sur une part de mon enfance. Ouais. Je reviens au moment où... c'est vrai, c'est une primaire. Je reviens au moment où je suis... où on me fait faire une photo. Je suis dans une famille d'accueil, une des trois que j'ai fréquentées. Puis on demande aux 12 enfants qui sont là de faire une photo devant un mur extrêmement impersonnel. Puis on me dit, il faut absolument que la photo, vous soyez beau, parce que c'est comme ça qu'on va vous adopter ou pas. Il faut que vous soyez adoptable. Ah. Et moi, je lui réponds à la dame à 4 ans et demi, j'allais avoir 5 ans pratiquement. J'ai dit, est-ce que je vais être choisie, madame? Et c'est le titre du livre, Madame, est-ce que je vais être choisie?
Ah, quelle...
Et c'est la question qui a... Et d'ailleurs, en dessous, c'est la question qui a dicté ma vie. Toute ma vie, je me suis demandé si j'allais être choisie, même quand je l'étais choisie.
C'est ça. Donc, c'est finalement tout ton parcours qui est derrière ça, finalement.
Totalement.
Ça part de ton enfance, en fait, tout ce parcours singulier que tu as eu. C'est ça qui t'a... ça a été fondateur, c'est ça qui a été identitaire à la fois.
Mais en même temps, il faut cesser de toujours penser que le passé... C'est les bouddhistes qui disent ça. Il faut embrasser parfois la souffrance.
Ouais.
Il faut l'embrasser, c'est-à-dire l'accueillir, lui donner une valeur à ça. Moi, je ne serais pas même individu sans cette enfance terrible. Jamais, jamais. Je ne sais pas ce que j'aurais été avec la popularité, moi. Est-ce que j'aurais été chiant? Est-ce que j'aurais été condescendant? Est-ce que j'aurais été le même gars aujourd'hui bienveillant que je suis puis attiré vers l'autre? Je ne pense pas. Donc, un jour, quand la popularité est arrivée, moi, pour moi, c'était 37 ans à l'époque où j'étais à Star Academy comme directeur, j'ai remercié la vie, moi, d'être ce que j'étais. J'ai dit, ah, je suis content d'être comme ça, parce que je ne suis pas sûr, moi, j'avais eu ça à 22 ans, que je n'aurais pas été dans la revanche de la vie, tu sais, en se disant, maintenant, je vaux quelque chose par rapport à avant, où elle me traitait comme pour un rien, donc elle me traitait mal. Donc, c'est ça. Moi, je pense que je remercie la vie d'avoir cette différence dans l'éducation.
C'est ça que j'allais te poser comme question. Donc, tu sens que tu es différent depuis tout le temps?
Ah, mais moi, quand j'étais petit, je savais bien que je... que ma nature, parfois exubérante, parfois créative, parfois émerveillée, ça ne correspondait pas du tout dans le milieu où j'étais, surtout pas à Matane. Donc, je me suis tué longtemps, moi. Je me suis tué longtemps pour ne pas déranger, pour entrer dans le moule. Et puis, tous les gens qui étaient près de moi le voyaient bien qu'il allait se passer quelque chose. D'ailleurs, ils disaient tous, on savait que tu allais devenir connu. Mais c'était pas parce que je voulais devenir connu, c'est que je voulais sortir de là et faire quelque chose de ma vie. C'était bien plus ça que d'être connu. Connu, ça, c'est ce qui vient avec. Mais jamais j'ai voulu devenir une vedette pour devenir une vedette. Ça m'intéressait pas, ça. Mm-hmm. Pas du tout.
Non, c'est ça. Et donc, en fait, tous les obstacles, finalement, ça peut être toujours vu comme un tremplin vers une réalisation, vers la création, l'innovation. Enfin,
totalement.
Je pense que c'est ça le défi.
C'est pour ça que j'ai appelé un de mes livres auquel tu faisais référence tout à l'heure, qui est « Passage obligé », c'est quoi qu'on fasse. Il y a des passages obligés sur notre route, dont les deuils, dont la disparition des gens qu'on aime, dont un deuil des fois d'une carrière, le deuil d'une amitié que tu croyais éternelle. C'est ça la vie, quoi qu'on fasse. Okay? Et c'est pour ça que j'aimais tant la symbolique du train quand j'ai proposé ça à Radio-Canada, qui avait dit non au départ. C'est important. C'est Dominique Chalot qui y a cru et qui a dit, qui était patronne à l'époque, qui a dit « faut qu'on le fasse ». Parce que pour moi, un train, c'est ça. C'est une destination précise, mais tu sais jamais ce qui va se passer en route.
C'est vrai.
Et j'aimais ça. Et j'aimais l'idée que... Le train continue à avancer durant qu'on s'arrête sur un événement qui est figé dans le temps. Et ça, j'aimais l'idée de ça. Pour dire, tu sais, c'est Laurence Jalbert qui disait un jour, « Ma mère est décédée et la Terre continue de tourner quand même. » Et moi, je voulais que le train roule quand même si on parle d'un événement qui était figé dans le temps. Parce que quand on parle du deuil, entre autres, c'était ça au début le sujet des prédilections, ben on se dit « Ah, mon Dieu, c'était terrible cette journée-là. » Et nous, on doit avancer quand même. C'est ce qui est très, très dur. Nathalie en sait quelque chose parce qu'elle a perdu son conjoint, mais le grand amour de sa vie. Et ce qui est toujours très difficile, c'est la Terre tourne pareil. Il y a encore un soleil le matin, il y a la lune le soir. Et toi, tu es figé dans ta peine. Mais ce qui est formidable du deuil, je le dis, c'est formidable du deuil, c'est qu'à un moment donné, une journée, tu pleures moins. La cinquième journée, tu pleures encore moins. Et un jour, tu t'étonnes à pleurer plus du tout. Et là, tu te sens coupable. Là, tu as peur d'oublier l'autre. Tu te sens coupable. Tu te dis, j'ai moins pleuré que d'habitude. Et là, l'absence devient une présence. Là, tu sens l'autre. tu sens l'autre qui t'accompagne. C'est fascinant, la résolution d'un deuil. Mais quand on passe à travers, c'est,
beau, Nathalie,
c'est terrible.
Hein, toi
ben, oui, mais
ça,
j'ai déjà entendu ce discours de José Lito. Il m'a pris dans ses bras pour me dire ça. Ouais. Mais moi, ce que je me dis, c'est que le deuil, effectivement, c'est vraiment difficile à vivre, à traverser. Mais on dirait que la peine est la seule chose qui me reste. Le seul lien qui me reste avec Pierre, c'est le chagrin.
Non. Vous savez pourquoi?
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut l'entretenir? Est-ce qu'il faut l'entretenir?
Mais en fait, il ne faut pas l'entretenir, mais c'est difficile de couper les ponts. Puis de dire, je vais arrêter d'avoir de la peine. Moi, la peine, c'est ce qui me garde en contact avec Pierre. C'est la seule chose que j'ai dit.
Sinon, tu as l'impression de l'oublier.
Oui, un peu.
Ben, c'est exactement ça. Ouais. Le plus dur, quand on est rendu... Et on a eu beaucoup de discussions ensemble là-dessus, parce que c'est mon ami, puis je l'aime, puis je connaissais tellement Pierre, j'aimais tellement Pierre. Mais... C'est parce qu'on a peur de trahir l'autre. Ça s'appelle la loyauté envers l'autre. On s'est dit, si je ne le peur plus, ça veut dire qu'il n'y a plus d'importance à mes yeux. Et là, on tombe. Malheureusement, il y a un mot qui n'est pas beau que je veux dire, mais il y a une forme de complaisance, pardonnez-nous.
Oui, mais tu as raison, je le dis.
Thérapeutique, on le dit, mais c'est une... Oui, je te vois réagir.
Ouais.
Pourquoi? Parce que la complaisance, c'est aussi un réconfort.
OK.
C'est ce qu'on connaît. C'est ce qui nous fait du bien. Combien de fois j'entends des gens avoir de la peine de quelque chose, les gens disent « mais oui, reviens-en », mais en même temps, le fait de se vautrer un peu dans cette peine-là nous rassure parce que nous connaissons la douleur. Mmh. C'est la fois la plus difficile à comprendre, c'est de dire « oui, mais laisse-moi ma douleur, laisse-moi ma peine. »
Il me reste ça.
Il me reste ça de mon rapport avec lui.
De mon grand amour, oui.
Alors que c'est, la plupart des gens, c'est pas ça qu'on fait, là, habituellement. On n'en parle pas, on est mal à l'aise, on veut pas raviver la douleur, on a peur de...
On a surtout peur pour nous. Mmh. On a peur de ce que ça va nous faire. Moi, j'ai toujours dit, je l'avais dit dès le départ à mon amie Nathalie, je l'ai dit aussi à Isabelle Chevrier, qui a perdu son conjoint, tous les gens... J'ai dit, tu vas voir, au début, il y a plein de gens, puis du coup, il y en a de moins en moins. Puis quand tu évoques le sujet du disparu, je te garantis que ça veut passer à autre chose parce que ça ne veut pas y aller. Et c'est normal.
Mais on a une amie commune, Isabelle Lajeunesse, qui a perdu François Guy. Ben c'est un peu le même phénomène. C'est exactement le même discours.
Même
c'est pareil.
On a l'impression qu'après un certain temps, les gens oublient. Ouais. Les gens ne veulent pas en parler parce qu'il y a un malaise aussi. Tu te dis, est-ce que je peux en parler de Pierre? Je sais que nous, on en parle beaucoup.
Beaucoup, beaucoup. Là, il est très présent quand on en parle.
C'est ça.
Il est très, très présent. Puis on ne parle pas de lui au passé. On dit, ah, Pierre serait content de ça. Il serait heureux de ça. Il y a eu 60 ans aujourd'hui. On l'amène dans le présent. Mais il a fait quelque chose, je ne veux pas tout dévoiler, mais Pierre a fait quelque chose d'exceptionnel. Et c'est ses retrouvailles avec les gens qu'il aimait avant de partir. Je trouverai toujours que ça restera un moment important, ne serait-ce que pour nous égoïstement, mais certainement pour lui. Parce que dans mon livre « Passage obligé », il y avait Dominique Bertrand qui disait « La seule certitude que j'ai, dans la mort de mon chum, parce que lui, il est allé sur le cours de squash, puis il est mort sur le cours
de
squash.
Tout à fait, subitement, c'est
subitement, ça. Tu te souviens, il a dit, j'étais à jour avec lui. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir eu cette rencontre avec Pierre quelques jours avant sa mort, dans mon cas, moi et tous ses amis qui y étaient, il y avait une mise à jour qui était là.
Mm.
Et Pierre, je pense, s'est assuré qu'il y a une mise à jour avec tout le monde. En lui disant ce qu'il pensait d'eux, de l'amour qu'il lui a... Pierre avait une pudeur, mais en même temps, il avait une générosité extraordinaire du cœur. Fait que c'est pour ça. Moi, j'essaie d'en parler au présent, puis je sais que Nathalie a fait beaucoup de chemin dans son deuil, puis ça, c'est formidable.
Et on peut... D'abord, c'est très personnel, là, ce dont on parle, mais sauf que ça nous aide un petit peu à vivre chacun quand on a ces témoignages-là. Alors, puis toi, t'en as eu tellement, t'as tellement reçu de témoignages. Alors, à quel point ça t'a permis de grandir encore davantage? Évidemment, je te poserai pas la question s'il y a une entrevue en particulier, parce que là, tu en as tellement eu, ce serait une question très difficile à poser.
Non, mais peut-être une qui vient en tête.
Ah oui, c'est vrai?
C'est toujours Isabelle Gaston qui a perdu ses deux enfants.
C'est bien trop vrai, t'as raison.
Ça restera toujours. Son mère avait tué ses deux enfants.
Oui, je me souviens de cette entrevue.
Ça, je me souviens de ça beaucoup. Difficile. Mais c'est étrange que ça fait. Moi, j'étais un... Bon, j'ai jamais dit ça nulle part. Je vais vous dire, une des raisons pour laquelle j'ai... Vous, c'est vous trois. Une des raisons pour laquelle j'ai quitté le train, ben, j'aurais pu continuer pendant des années. Hein, j'avais un contrat presque à vie. Et j'exagère à peine. C'est que je portais la peine des autres. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'empathie. Donc, qui se transforme en sympathie.
OK.
Donc,
alors, tu prenais ça un peu sur tes épaules.
Moi, j'avais l'impression que, tout d'un coup, j'étais rendu, que je ne riais plus. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai? Puis ma femme me dit, t'as tellement d'histoires dans ton cœur que tu portes. et qui ne t'appartiennent
plus. Ça, c'est un autre défi de pouvoir quand même dissocier.
Totalement.
Te dissocier de ça. Écoute, c'est drôle parce que l'autre côté de la vitre en régie, on a Philippe Lapointe, notre grand patron, et c'est vraiment un des gars qui t'a aidé beaucoup à faire de la télé. C'est lui qui t'a permis de faire la télé.
C'est plus qu'il m'a aidé à faire la télévision. C'est que ouvre bien tes oreilles, Philippe.
Il t'a donné tes premières jobs.
C'est-à-dire que Philippe Lapointe avait vu chez moi quelque chose. Donc souvent, Philippe m'appelait comme directeur, à ce moment-là, il devait être VP de TVA. Il m'appelait souvent, m'a demandé mon avis parce qu'il disait « t'es l'homme qui regarde le plus de télévision que je connaisse au Québec ». Et c'est vrai que je regarde beaucoup la télé, je suis beaucoup inscrit sur le magazine, je lis beaucoup, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe, ici comme ailleurs. Et à un moment donné, il m'a appelé, puis il m'a dit « j'aimerais ça qu'on parle ensemble de ce que tu vois, puis tout ça ». Puis là, il me pose plein de questions, puis je donne mon analyse, mais je comprends pas qu'il m'offre une job. Je le comprends pas. Fait que j'arrive, voiture, puis je dis « qui c'est qui vient de me dire là? Je comprends pas ». Il venait de m'offrir le show de fin de soirée. Et moi, j'avais rien dit, au contraire, contre François Morency, que je trouvais très, très, très bon. Même, je me demandais pourquoi il ne serait plus là. Mais je sais que c'était une question de budget, là. Mais j'aimais beaucoup, beaucoup François Morency. D'ailleurs, j'avais dit beaucoup de bien de lui. J'avais dit, peut-être que son métier premier, c'est pas interviewer, mais il y a tellement quelque chose de singulier.
Mais ça, c'était pratiquement l'impresario, le producteur en toi qui parlait, bien sûr.
Qui porte à la défense de l'autre. Et là, il m'a dit, c'est toi que je veux là. Il a vu quelque chose en moi et ça a changé ma vie.
Alors, on le salue, Philippe. Alors oui, ça nous a rendu nostalgiques. D'ailleurs, notre réalisateur à la mise en onde, notre technicien à la mise en onde, nous a mis une petite musique nostalgique.
Je suis parti dans mes pensées, moi.
c'est ça, ça nous rappelait notre bon vieux temps au cinéparc. Bon, cela dit, on va continuer notre sujet. On n'a plus beaucoup de temps parce que José Lito, il y a beaucoup de choses à dire. Et puis là, il y a
Tant
Nathalie.
Tant mieux, parce qu'il y a des invités qui n'ont rien à dire.
C'est ça. Nathalie, aussi, tu as des choses importantes à nous dire.
Oui, en fait, je veux juste rappeler que c'est la 10e édition cette année de la Transat Québec-Saint-Malo à Québec.
Oui, puis je trouve événement ça important. De voile.
Je trouve ça important d'en parler parce que, écoute, depuis 2016, il n'y avait pas eu de Transat Québec.
C'est aux 4 ans, puis après ça, 2020, c'est la pandémie.
La pandémie, exactement. Alors, il n'y en a pas eu. Ah, oui. Et là, José Lito, je ne sais pas si tu es déjà allé.
C'est le Québec 84, moi.
Alors, les festivités se déroulent jusqu'au 30 juin, puis je voulais en parler parce que ça achève. Donc, les gens, allez-y, il n'est pas trop tard. Puis on parle d'un événement légendaire là, qui est ouvert au grand public.
Oui, parce que le départ a lieu le 30, autour de 14 heures.
Oui, exactement.
Alors, vraiment, c'est vraiment cette traversée là, mythique. Et je pense, moi, je me suis intéressée à l'époque là, des Florence Artaud, là, qui est malheureusement décédée aujourd'hui. Elle est décédée plus d'un accident d'hélicoptère. C'est fou, quand même.
C'était diffusé à Radio-Canada.
Oui,
tout à fait.
On avait de belles diffusions, peut-être sur des postes plus spécialisés. Ouais. Oui, on a encore.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste la voile, c'est qu'il y a des expositions, des films, il y a des visites de bateaux, il y a des spectacles. On en a fait un festival jusqu'au départ. Alors, à ne pas manquer à Québec, la 10e édition,
à partir d'aujourd'hui.
À partir d'aujourd'hui, jusqu'au 30 juin.
Et le grand départ à 14 heures, il y a beaucoup de fébrilité dans l'air, apparemment, du côté du port de Québec. Là.
Le port de Québec, les abords du fleuve, là, c'est la fête.
C'est
tout
magnifique.
À fait. Ouais. Bon. Alors, et puis, tu vas nous parler éventuellement aussi de cinéma, mais tu as quand même un petit film en lien avec un sujet dont tu vas reparler.
Oui, je vais en reparler, mais j'en ai parlé, je suis allée voir le film Petit truc en plus. Et puis j'ai adoré. Et ce film-là, dans ce film-là, il y a 11 personnes, 11 comédiens qui vivent vraiment avec une délimitation. C'est un superbe film.
C'est le plus grand succès de France depuis longtemps.
Oui, tu vois, ils ont 8 semaines, ça fait 8 semaines. Et
8
puis,
millions, je pense.
Ils sont rendus pas loin de 10 millions.
10 millions.
C'est le plus grand film des 10 dernières années en France.
Ce qui veut dire quoi? C'est que quand on touche à l'âme, ça fait du bien.
Les gens sont intéressés, puis les comédiens là-dedans qui sont... Il y a des trisomiques. Ces gens-là sont tellement attachants, mais ils sont d'un naturel fou. C'est incroyable. Alors, j'en reparlerai parce que je veux...
T'as une personne autiste. En fait, il y a une belle variété, une belle brochette, entre guillemets, de comédiens.
Oui, puis la semaine prochaine, je reparlerai de la représentation du handicap au cinéma parce qu'on a eu des films marquants, mais joué par de vrais comédiens.
Et que ça fait du bien.
Ouais. Alors que c'est des vraies personnes en situation de handicap. C'est ça la différence.
Ça me fait penser au film Gabriel ici, Louise Archambault.
Tu sais, quand les comédiens, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, les comédiens, mais quand ils doivent être d'être coaché par des gens qui vivent avec les limitations ou en situation de handicap, ça fait un peu étrange, alors que maintenant, on peut avoir des gens qui jouent leur propre rôle.
C'est tant mieux.
Oui, tant mieux.
Alors, c'est merveilleux. Bon, des petites questions comme ça qu'on va te poser, là.
Oui.
Puis tu y vas, évidemment, selon... Si tu n'as pas de réponse, tu nous le dis, on passe à une autre. D'abord, tes projets pour l'été.
Bien là, je travaille beaucoup de travail. Je travaille beaucoup sur Luc Langevin. Je travaille sur mon livre que je termine à la fin septembre. Je commence mon balado, je ne voudrais pas être indiscret. Et je veux aussi me reposer à travers ça.
Ouais, ça c'est tout un défi.
Oui.
Et puis, tu as un projet avec Mélissa Bédard aussi.
Oui,
ça, tu dois trouver un producteur ou enfin
Un producteur, c'est moi, mais un diffuseur, ça annonce bien.
C'est bon.
Ah,
alors, as-tu des habitudes l'été, une tradition là, particulière, que ce soit avec tes enfants ou des souvenirs mémorables?
Ce que j'aime beaucoup de l'été, chez nous, j'ai la chance d'avoir une piscine, devenue souvent. Et ça, c'est un des plaisirs que j'ai au quotidien, de me lancer à la piscine à mon lever.
Ah.
Ce matin encore, je l'ai fait, mais j'aime ça. Peu importe la température, dès que la piscine est installée, j'y vais.
Ouais. Puis un festival, peut-être, que tu retiens en particulier, qui vraiment te fait penser à l'été. Tu dis, moi, là, c'est ce
festival.
C'était
juste un festival à
voir. Festival d'été de Québec.
Ah, okay.
Le Festival d'été de Québec.
Ben, avec un cadre enchanteur comme Québec, c'est sûr qu'on ne peut pas se tromper. Le type de lecture que tu aimes l'été?
Les biographies. Je suis fasciné par les destins des gens.
Ben tiens.
Ouais. C'est nouveau.
C'est nouveau.
C'est une nouvelle passion. Je
nouvelle
sais pas
passion.
Pourquoi.
J'aime beaucoup l'être humain. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, dès que j'ai la chance de voir un parcours distinctif, singulier, j'aime beaucoup lire ça. J'en ai toujours 5-6 à la fois.
Peux-tu en suggérer une ou deux? Une biographie que t'as vraiment touché.
Ben, le destin. Ben, une Ève Salvaille. Je parle d'une fille qui vient de Matane, de mon coin de pays. C'est très beau quand elle parle de tous ses podiums parce qu'elle a été, mannequin international. Puis on voit aussi l'envers du décor. Et s'il y a un seul documentaire à proposer aux gens aujourd'hui, c'est aller voir Céline Dion sur Prime parce que ça reste une vision très, très claire. Peut-être le prix à payer pour avoir trop atteint les sommets.
Ouais.
Je trouve qu'il y a une belle... On ne peut pas généraliser, mais ça ressemble à un destin comme celui de Whitney Houston. On dirait qu'il finit toujours mal, ces destins-là.
Ouais.
Et je constate que Céline, ça ne va pas bien quand on voit ce documentaire-là.
Alors, ça nous fait réfléchir, mais je pense aussi que c'est parfaitement assumé parce qu'elle nous place un petit peu dans une situation... On a l'impression d'être un petit peu voyeur, peut-être, mais c'est...
Mais c'est le siège qu'il nous donne.
C'est exactement la position qu'on nous donne.
Ouais.
Alors, ça, c'est assumé. Donc, on n'a pas à se sentir mal non plus.
Mais,
ça nous permet de comprendre des choses.
Oui, mais ça bouscule. Ça pose beaucoup de grandes questions, puis voilà.
Vitement, là, un endroit pour passer ses vacances l'été.
L'Estrie.
Ah!
J'aime l'Estrie. J'aime l'Estrie.
Oui.
On s'en va vivre là. On quitte Boucherville pour aller vivre en Estrie.
Bon, alors c'est ça. Ben parfait. Puis qu'est-ce que tu aimes manger l'été?
Une grande salade avec du homard. Oh. J'aime beaucoup le homard.
La fraîcheur.
La fraîcheur avec des fruits frais dedans. Écoute, je vais me faire ça ce soir. Avec un petit vin blanc. Tiens.
Ah, ça nous donne des idées. Maintenant, faut-il payer le homard? Ça,
oui, mais attention, je vais doucement.
Okay.
Une fois par deux semaines, je le fais trois fois durant l'été. Tu vois, mais je suis raisonnable.
Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. Merci, José Lito Michaud.
Merci à vous.
Merci tout le monde. Merci, Nathalie. Merci à Mme Matters d'avoir été là pour nous parler de Cinéparc. Merci, Clarence Robitaille-Meloche, de nous avoir parlé de ta neurodivergence. Alors, ça a été passionnant toute cette heure. Et bien, je vous retrouve mardi parce qu'on a congé lundi. Alors, bonne fin de semaine, bon long congé à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.
Bye,
merci,
bon week-end.
Bye.